L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Avec vous, Marie-Claude Kezaxia et Christian Allier commencent sur FM+, une nouvelle émission, l'Afrique dans tous ses états. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Guylaine, c'est un honneur.
Non, mais c'est un plaisir partagé. Alors, l'Afrique dans tous ses états, ce sera une émission sur les valeurs, les cultures, l'économie de ce vaste continent qu'est l'Afrique. C'est bien ça, Marie-Claude?
C'est bien ça, c'est un petit peu ce que nous avions pensé d'ailleurs, Guylaine.
Donc, absolument,
les jeux, quand même, je dois dire.
J'accepte la complicité. J'accepte.
Voilà. Et je vais commencer avec une citation d'une Africaine que je trouve, que j'adore, qui écrit très très bien. Si vous n'avez rien lu d'elle, allez-y, précipitez-vous. C'est Fatou Diomé. Elle a fait d'ailleurs des plaidoyers pour l'Afrique assez retentissants. Et dans le ventre de l'Atlantique, elle écrit « C'est comme une communion venue du plus profond des âges. On peut remplacer nos pagnes par des pantalons, trafiquer nos dialectes, voler nos masques, défriser nos cheveux ou décolorer notre peau. » Mais aucun savoir-faire technique ou chimique ne saura jamais extirper de notre âme la veine rythmique qui bondit dès la première résonance du djembé. Raison et sensibilité ne s'excluent point. Et je dois dire que dans cette phrase, moi, je vois aussi tout ce que nous avons envie de faire, de transmettre sur l'Afrique, à savoir, bon, et effectivement, il y a la pauvreté, etc., tout ce qu'on connaît et que malheureusement, je connais plutôt bien. Mais il y a aussi toute cette richesse, cette vitalité, cette culture et cette richesse linguistique, parce qu'il y a je ne sais pas combien de langues en Afrique. Et, on voit bien actuellement combien les artistes africains sont en train d'émerger, de pointer dans tout le monde occidental. Ils sont en train de faire un malheur. Et donc, voilà, c'est ça qu'on a envie un petit peu de transmettre.
Alors, Marie-Claude Kezaxia, donc c'est vrai, dans ses premiers propos, là, on sent un enthousiasme, une passion. Mais alors, donc, à vous voir, je peux constater que vous n'êtes pas africaine, en tout cas, vous n'êtes pas née là, peut-être née là-bas, mais pas.
Non, je ne suis pas née là-bas.
Même pas. Mais alors, ça devient d'où cette passion et cet intérêt?
Je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans mon histoire, j'ai beaucoup voyagé. Et ce n'était pas l'Afrique ma première destination, parce que je ne sais pas pourquoi, je savais que de toute façon, j'irais un jour ou l'autre. Et en fait, ça s'est fait par rapport à des copains qui allaient faire un petit peu de l'humanitaire et qui ont apporté, qui ont ramené une petite vidéo d'une jeune fille qui était handicapée des poignets, qui avait été très mal opérée. Donc, on a fait toute une opération pour la faire opérer en France. Et à partir de là, j'ai été invitée à aller en Afrique. Je suis allée pour la première fois pour 3 semaines. Et effectivement, j'ai eu l'impression un petit peu que je rentrais à la maison.
Vous sentiez chez vous.
Voilà, je me sentais chez moi. Peut-être c'est pour ça que j'avais toujours su que j'irais un jour. Et à partir de là, c'est parti quoi, pour une histoire d'amour. Et puis effectivement, quand on va dans des pays comme celui où je vais, qui est depuis bientôt 23 ans, le Burkina Faso, on ne va pas vraiment pour faire du tourisme, on a envie aussi d'apporter sa pierre et de collaborer, parce que moi j'ai jamais senti que je faisais vraiment de l'humanitaire condescendant. J'ai toujours eu l'impression au contraire que cette vitalité qu'ils portent en eux, eh ben, je l'accompagnais, ils me donnaient aussi et on partageait, et du coup on avance difficilement, mais on avance et avec des résultats toujours qui sont tout à fait à la dimension de la richesse de ces personnes-là.
Voilà. Alors, Marie-Claude Kezaxia, vous êtes venue avec Christian Allier, qui est aussi un passionné de l'Afrique. Mais peut-être votre chemin vers ce continent, a-t-il utilisé d'autres voies? Est-il bordé d'autres choses qu'une personne d'une adolescente qui va conduire? Marie-Claude, vers l'Afrique, c'est quoi votre parcours, Christian?
Le mien est beaucoup plus simple.
Si on veut.
J'ai pas choisi de vivre en Afrique 50 ans, dont la moitié dans la forêt gabonaise. C'est un faisceau d'événements. Mes parents, mon père né au Maroc, bon, après la guerre, etc., n'avait pas envie de vivre en France. Pour des raisons dont on n'a jamais parlé, mais peu importe.
Il voulait carrément habiter ailleurs.
Il voulait retourner en Afrique.
Retourner en Afrique.
L'Afrique, le Maroc, Maroc en fait partie. Voilà. Oui. Et donc il nous a emmenés. Il travaille pour une banque française que je ne nomme pas. Ils n'ont pas besoin de pub. Et donc on a fait plusieurs pays africains, si bien que je me suis retrouvé. Moi, je suis né à 7.
À 7 dans l'Hérault.
Dans l'Hérault, voilà, tout près d'ici.
Au bord de la Méditerranée.
Voilà. Et je me suis retrouvé à 4 ou 5 ans, entre les deux en tout cas, à Dakar, Sénégal. Mmh. Et là, l'Afrique m'a ouvert les bras. Et l'Afrique, c'est pas compliqué. Soit on se laisse étreindre, soit on s'en va. Mmh,
je confirme.
Ou alors on en profite, on y va dans un but... très peu recommandable à mon sens, mais voilà.
Alors là, rappelez-moi, vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé la première fois à Dakar ?
Entre 4 et 5 ans.
4 et 5 ans. Et déjà, c'était évident.
Ah, pour moi, j'ai pris la chaleur. Je me souviens de ma descente d'avion. Bon, c'était des avions hélice à l'époque. Déjà, le bruit s'est arrêté. J'avais plus peur parce que cet avion tremblait tout seul. C'était assez bizarre à mon âge. Enfin, à l'âge de l'époque. Et la porte s'est ouverte, la chaleur est entrée, et puis les sons, les couleurs, les odeurs, j'étais ailleurs, quoi.
Et ça vous a plu?
Et ça, j'ai adoré. Et ça se sent toujours sur ce continent. Et on a fait plusieurs pays, comme ça, avec mes parents. Et dans chacun de ces pays, s'est passé un événement qui m'a modelé. Qui a modelé mon esprit, ma façon
donc
d'être.
Ça veut dire que toute votre enfance, à partir de 5 ans, vous l'avez vécue sur le continent africain, dans différentes cultures?
Absolument, oui. Bon, on a commencé par le Sénégal, ensuite le Bénin, enfin, qui s'appelait à l'époque Dahomey, j'ai vécu les indépendances là-bas. Et là-bas, il s'est passé un événement dont je parlerai un peu plus tard, mais qui a conditionné tout le reste de mon cheminement.
Donc là, vous voilà,
le Nord Cameroun,
oui.
Il y a eu le Gabon entre-temps, bon, je vous les donne en désordre, mais c'est pas grave. Je suis revenu traîner un peu en fac ici à Montpellier, et comme après, je voulais absolument vivre en forêt depuis tout petit, depuis ce que je vais pas tarder à dire. Et je suis reparti, j'ai passé 25 ans dans la forêt gabonaise, où j'étais forestier, surtout forestier. Puisque je n'ai pas de formation botanique ou d'exploitation forestière, de technique d'exploitation forestière, j'ai appris sur le tas par le savoir des peuples autochtones.
Alors que vous êtes revenu faire un saut de puce à Montpellier, vous êtes revenu pour des études dans quelle discipline ?
J'en savais trop rien. Tout ce que je savais, c'est que je voulais...
Il vous fallait un diplôme, c'est ça ? Il vous fallait une licence ?
Bon, voilà. Il me fallait un papier. Bon, je ne savais pas trop lequel. Mon cursus scolaire a été un peu en dents de scie en Afrique. Il manquait, à l'époque, chaque fois un prof de maths, un prof de ci, un prof de mi. Alors, et puis j'étais plus souvent enfourré en brousse que devant mon bureau à travailler. Bref, quand j'ai débarqué ici, il fallait que j'aille quelque part, je me suis inscrit en droit. Mais je n'ai pas supporté. C'était pas
c'était
mon
un
truc.
Peu éloigné
avec cette
de
idée
vos préoccupations.
Cette idée de vivre en forêt. Ouais. Parce que, au Cameroun, au nord Cameroun, j'ai passé mon temps dans la savane camerounaise. C'est un pays de climat semi-sahélien, enfin maintenant carrément sahélien. Et j'ai le virus, ce besoin de vivre dans la nature, je l'ai pris là-bas. En Afrique, ça a commencé au Bénin, ça a continué au Cameroun. Et je suis revenu ici avec un niveau d'études pas très adapté à des études botaniques. Où je voulais faire de la recherche en éthologie, le comportement animal, mais ça me demandait 7 ans d'études via le circuit littéraire. Je pensais qu'à repartir en Afrique et vivre en forêt. Enfin, j'étais adulte.
Votre place était là-bas.
Voilà. Mon père était en poste à Port-Gentil, il remplaçait quelqu'un, Port-Gentil au Gabon. Et j'y ai dit, écoute, voilà, j'ai plié un diplôme d'IUT en 2 ans de gestion, bon, truc bateau. Mais utile, quand même.
Ça s'est avéré utile plus tard.
Ça m'a été, oui, pour diriger des entreprises que j'ai fait par la suite, ça m'a été très utile. Mais bon, j'ai vraiment fait ça.
Et vos parents, ils ont compris cet enthousiasme?
Ah oui. Mais c'est eux qui m'ont, au départ, bon, mon père né au Maroc, auprès des gens de ce pays-là, où ils se baladaient à cheval, en chameau, lui, il me conseillait, bon, mais déjà au Sénégal, si tu veux connaître le monde, va vers les gens. Va voir les gens. Pose-leur des questions, ils te répondront ou pas. Regarde comment ils sont, parle avec eux. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, j'avais 4-5 ans. Bon, évidemment, il y avait j'étais pas libre d'aller où je voulais. J'avais un territoire bien délimité, tel magasin, tel quartier, tel endroit, tu bouges pas de là, sinon tu sors plus. Bref, normal. Mais j'ai grandi avec des Africains. Avant les indépendances, on se marrait beaucoup. Nos ancêtres, les Gaulois, c'était pour tout le monde. Moi, ça m'allait bien, blond, les yeux bleus, pas de problème. Mais mes copains sénégalais ou béninois, on s'amusait beaucoup. Voilà comment ça a commencé.
Alors là, vous êtes en France, vous revenez avec votre diplôme de gestion et vous réintégrez quel pays alors quand vous revenez?
Le Gabon.
Le Gabon.
Après, je repars au Gabon,
ouais,
où mon père m'a trouvé un boulot dans une entreprise d'exploitation forestière, la plus grosse du pays, où je commence par le béaba, savoir la prospection. Prospection en forêt, c'est chercher des essences de bois rares, comme d'autres vont chercher de l'or ou des diamants. Et j'ai appris auprès des peuples, ce sont les gens du pays qui m'ont appris ça. Les ouvriers. Bon, j'étais chef, tu parles. J'étais chef parce que j'étais blanc. Hein, en Afrique, je ne sais pas si ça existe encore, mais t'es blanc, t'es chef. Bon. Ça ne tient pas vraiment debout à mon sens, mais c'est comme ça. Et mes gars, bon, le fait d'avoir grandi en Afrique avec des Africains, nos liens ont été très cordiaux tout de suite.
Ouais, vous aviez les codes déjà,
oui,
de la société.
Voilà, bon, on parlait, non, enfin, il n'y a pas de... Il y avait la couleur de peau, moi je m'en suis toujours foutu, ça ne m'a jamais dérangé, quoi. Donc, et ça se sent tout de suite. Et mes gars m'apprenaient ce que je leur demandais, répondaient à mes questions. Pas toutes. Il y a certains moments, j'avais embauché deux pygmées, dont un qui m'a appris énormément de choses. Il m'a montré des tas de plantes, mais il m'a soigné des variétés de la dengue avec des plantes, un mélange de plantes. En 48 heures, il m'a remis debout. J'étais lessivé. C'est une fièvre énorme. Et on était loin en forêt, à pied. J'avais pas de voiture qui venait me chercher avant une semaine. Si ce gars n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a vraiment sauvé la peau. Et par exemple, le traitement qu'il m'a donné à ce moment-là, il n'a jamais voulu me le révéler. Ils ont des interdits. Il m'a expliqué. Hein. On s'entendait très bien. Il m'a dit non, ça je ne peux pas te dire.
Ce n'est pas lui qui ne voulait pas, c'était au-delà de lui.
Oui, nos ancêtres nous ont fixé des codes. Tout ce qu'on sait de la forêt, on peut partager certaines choses, pour moi, pour les maladies de peau ou des problèmes digestifs, etc. Mais ce que je t'ai donné là, je peux pas. Je peux pas, sinon je suis maudit pour toujours. Alors là, les ancêtres le surveillaient, quoi. Et bon, moi je... Voilà.
Ouais. Alors dans cette société d'exploitation de produits, de substances... rare, vous n'avez pas dit substance, vous
non,
avez
non,
dit
d'exploitation de bois.
D'essence rare. De bois. Vous abattiez des arbres?
Moi non, je faisais.
Abattre. Vous faisiez abattre, vous détruisiez finalement une partie
absolument,
de la forêt.
Absolument, et ça a été très dur à vivre. Oui. On peut travailler proprement, mais en Afrique, ce n'est pas le cas. En Afrique et sur toute la bande équatoriale de cette planète. Moi, je parle de ce dont je parle, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu de la déforestation. C'est dramatique, mais ça, si j'ai le temps, je développerai un petit peu, mais pour l'instant, on en est à l'Afrique. Et c'est terrifiant ce qui se passe maintenant. Maintenant, c'est... Bon, et après, je reviens
sur la déforestation.
À la question. Ouais.
La question, c'était en fait, comment est-ce que vous passez d'une destruction d'arbres à cet amour des arbres?
Parce que j'ai grandi, j'ai la chance, le privilège d'avoir grandi et d'avoir été élevé dans la nature africaine. Auprès des Africains, des petits Africains, ceux qui m'ont appris à pêcher, ceux qui m'ont appris au Cameroun à pister des antilopes, à les reconnaître à leurs traces, etc., etc. Des petits et des grands, là, quand j'étais au Cameroun. Et c'est entré en moi, j'analyse pas, c'est comme ça. Ce que les arbres, j'ai passé 25 ans sous les arbres.
Et en fait, votre connaissance des arbres, elle vient de là?
De ce que ces humains-là m'ont appris. Et de ce que les arbres ont fait entrer en moi sans que je puisse identifier ou quoi que ce soit. Et ça, j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance de vivre ça, parce que maintenant, ça me permet de situer ma place sur cette planète. Je suis un élément de la nature, point barre. Je suis fait d'énergie et de matière. Ça, tous les Africains le savent. Quel que soit la zone. Et tous les Guarani, les Chaninka, etc., d'Amérique centrale, du Brésil, c'est pareil. Ils ont gardé ce lien à la nature dont nous sommes faits. Et ça, j'ai la chance de le porter en moi, mais c'est très difficile d'exprimer ce qu'on ressent. Mmh.
C'est une transmission humaine et c'est aussi une transmission. C'est une transmission d'un savoir sur.
Tout à fait, oui.
La forêt, la question de l'arbre.
Sur la vie en général, le vivant. Ouais. On fait partie d'un élément fantastique avec un grand V, le vivant.
Mais quand même, sur Internet, on trouve la référence d'un ouvrage que vous avez écrit il y a quelques années. Vous m'avez dit tout à l'heure que c'était pas disponible, mais le titre quand même, c'est « La parole de l'arbre ».
Oui.
Donc les arbres, vous dites aussi qu'ils sont vivants, mais oui. Cette transmission-là de l'arbre en tant que tel, maintenant on en parle beaucoup, hein, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent sur cette...
Heureusement.
Oui, mais à cette époque-là, quand vous avez écrit ça, c'était beaucoup moins pertinent ou d'actualité.
C'est toujours, oui. Bon, ce premier bouquin, il faut dépasser l'aspect auto-psychanalytique de l'écriture. Et moi, je suis très sensibilisé à cette histoire de déforestation, bien qu'ayant vécu, ayant gagné ma vie dans des entreprises d'exploitation forestière et de tous les niveaux, des plus grandes aux plus petites. Bon. J'ai fait toutes les échelles.
Oui, moi je voulais vous orienter sur ce titre-là, la parole de l'arbre.
Ah oui, la parole de l'arbre. Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voir un arbre m'apaise. Et je m'en suis aperçu en revenant en France. J'étais très mal dans ma peau quand j'ai quitté le Gabon après un coup de gueule ou à propos de déforestation qui m'a valu beaucoup de tracasseries. Et... Donc je suis revenu ici. Mais l'arbre m'apaise, ma compagne m'a fait remarquer qu'en ville, je me repérais aux arbres, et ça je le fais naturellement, c'est pas calculé. Alors la parole de l'arbre, je parle aux arbres, avec ma voix ou juste dans ma tête. Mais on communique, j'échange, moi, tous là, autant que nous sommes, nous émettons des énergies, y compris des rayons gamma, X et compagnie. L'arbre, on commence à peine, la botanique a fait énormément de progrès, on commence à peine à savoir tout ce qu'ils émettent. Il y a forcément, sur toutes ces longueurs d'onde, des moments de connexion probables.
Alors,
la sylvothérapie,
ça
devient... Alors, on en parle de plus en plus, et tant mieux. C'est vrai que s'asseoir contre un arbre, et là j'ai une anecdote à ce propos, si j'ai le temps.
Bah oui, vous avez tout le temps, Christian.
Voilà. Quand j'ai attrapé cette variété de dingue, là, je suis parti, on a traversé un marécage. Alors ça durait des heures et je me sentais très sale. Soit le rentré au campement, on était loin en forêt. Hein. J'ai pris une douche avec un seau à douche, chaude, il fallait absolument que je me lave. Mais on était dans une zone où sévissent des insectes dont j'ai pas le nom scientifique, mais qu'on appelle fourrou. C'est un insecte, on le voit pas à l'œil nu. On voit juste les piqûres qu'il vous laisse. Et cette bestiole-là m'a collé cette fièvre-là. Le lendemain matin, je suis parti avec mes hommes, et puis au bout d'un kilomètre, on partait en prospection à pied. Je tenais plus debout, alors j'ai dit à mes gars de continuer tout seul et je voulais rentrer au campement par mes propres moyens. On n'était pas loin. On peut dans cette forêt, on se perd sur 100 mètres, c'est très vite fait. Mais bon, en prospection, on trace des layons à la machette, c'est-à-dire qu'on ouvre la forêt sur 1,50 m de large, on met des piquets de distance tous les 100 mètres, tous les 500 mètres. On met un bout de tôle qu'on cloue sur un arbre avec le numéro. Bref, on peut se repérer. Et c'était ça mon plan, de retrouver le lion et retrouver le campement. Et puis, ma sorte de lit, puisque là, on faisait du camping sauvage, très sauvage même. Bref, j'ai tourné en rond dans la forêt pendant une demi-heure. Et à un moment donné, j'étais épuisé, vraiment fatigué. Je ne trouvais pas le lion. Pourtant, c'était pas compliqué, mais bon, j'étais très malade. Et je me suis appuyé contre un arbre. Un dabéma. Bon, bref. Un arbre muni de contreforts, qui courent très loin sur le sol, mais des contreforts très minces. Et j'étais comme dans un fauteuil, en fait. Et le dos appuyé...
Bien installé.
Oui, le dos appuyé au tronc de l'arbre. Et là, j'ai vraiment senti... Je ne sais pas comment dire.
Une chaleur ?
Un apaisement.
Un apaisement.
Comme si l'arbre absorbait ma fatigue. Et puis, une sorte de chaleur très apaisante. Et à ce moment-là, un oiseau est passé. Un coucou. Coucou arboricole, qui est un oiseau superbe. Jaune et vert. Vert au-dessus et jaune fluo en dessous. Et je l'ai vu passer. C'est un oiseau très farouche. Quand il est passé, il m'a vu. Il a dépassé l'arbre où j'étais appuyé, où je me reposais. Il m'a vu et là, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, il m'a dit un truc dans sa langue à lui, mais bon. Et hop, il a tourné 50, 100 mètres plus loin. Il a tourné sur la droite, et là, je me suis levé. Comme ça, hein, je n'ai pas calculé quoi que ce soit. Je me suis levé, j'ai suivi cette route-là et je suis retombé sur le Léon que je n'arrivais pas à trouver. Et là, j'ai retrouvé mon campement et je me suis allongé. Et mes gars sont revenus plusieurs heures après. Voilà.
Une première vie en Afrique, dans la forêt.
Oui, voilà. Ouais. Dans la nature.
Dans la nature. Je vous propose, avant de continuer, Christian et Marie-Claude, un morceau musical d'un groupe jazz éthiopien. Ouais. Arad Kilo, Mamani Keita et Mike Ladd pour Anga Filé.
Yes.
Qu'est-ce qu'il est ?
Qu'est-ce qu'il est ? Ou bien ou quoi ? Très bien.
All right, let's go to work now. Vous êtes prêts? Maintenant, on nous parle du boulot. Le boulot d'amour. Cause it's all a party, baby.
I'm a filé.
I'm a filé, I'm a filé, I'm a filé, I'm a
Avec Arad Kilo, nous terminons cette première émission L'Afrique dans tous ses états. Au revoir.